VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, plus qu'un jour avant les élections présidentielles et législatives du samedi 16 février, le président de la Cour suprême nigériane, qui a autorité pour départager les candidats en cas de litige et d'accusation de fraude électorale, a plaidé ce vendredi non coupable de 6 chefs d'accusation de fraude et corruption au tribunal du code de conduite à Abuja, la capitale. Cette instance judiciaire est chargée d'examiner entre autres les affaires de non-déclaration ou de fausses déclarations sur les biens des suspects et la suspension du juge Walter Onogen par le président Muhammadu Buhari à moins d'un mois des élections de samedi avait provoqué une immense polémique. La présidentielle de demain s'annonce très serrée entre le président sortant Muhammadu Buhari, qui brigue un second mandat sous la bannière de l'APC, le Congrès des progressistes au pouvoir, et son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, le candidat du PDP, le Parti populaire démocratique. Et toujours concernant les élections au Nigeria, l'IPOB, le mouvement autochtone des peuples du Biafra, groupe séparatiste qui réclame l'indépendance du Biafra dans le sud-est du pays, a créé la surprise ce vendredi en levant sa menace de boycott du scrutin dans sa région. Le leader de l'IPOB, Nnamdi Kanu, n'a fait aucune déclaration sur le candidat de son choix à la présidentielle, mais le président Buhari, qui brigue un second mandat, est depuis longtemps un ennemi juré du mouvement indépendantiste Biafra. Élection au Sénégal maintenant, suite de la série de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay, sur les attentes des populations sénégalaises à l'approche de la présidentielle du 24 février. Dans le domaine de la santé, les doléances restent nombreuses, nous dit Sedina Abagay, malgré plusieurs plans lancés par le gouvernement sénégalais pour un accès facile aux soins.
Le 24 février 2019, les Sénégalais iront aux urnes pour élire un président de la République. Le président qui sera élu aura du pain sur la planche car les attentes sont nombreuses. Quelles sont les doléances en ce qui concerne la santé? Ahmad Dem, fonctionnaire, nous dresse la liste.
Tout juste de renforcer les hôpitaux, de renforcer le plateau médical, sorte que, bon, les gens qui ont les moyens d'aller à l'extérieur pour se soigner restent ici. Il faut aussi revoir aussi les prix parce que c'est trop cher, hein, c'est trop cher. En quelque sorte, du social pour que tout le monde peut se soigner, quoi. Bon, il faut aussi subventionner les écoles de santé parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'étudiants ici, mais par contre, il y a aussi des étudiants qui ont énormément de difficultés à payer leur scolarité et même les inscriptions. Donc, il va falloir tout revoir pour au moins que le système puisse fonctionner.
La mortalité maternelle reste un défi pour l'État du Sénégal malgré les efforts consentis. Le ratio est de 315 décès sur 1000 naissances. Safia Mansour Thiam, étudiante sénégalaise d'origine mauritanienne, suggère la surveillance du taux de mortalité maternelle et le lancement d'un plan de riposte de la pandémie.
Moi, je pense qu'on doit renforcer les hôpitaux, faire attention et aussi faire tout pour diminuer le taux de mortalité et de morbidité.
La répartition du personnel de la santé est disproportionnelle. Dakar concentre plus de professionnels de la santé comparé aux autres régions. 39% des professionnels de la santé se trouvent dans la capitale, suivi de Thiès avec 10% et de Kaolack avec 7%. La région de Kédougou concentre seulement 1%. Voilà pourquoi Aram attend du futur chef de l'État le renforcement du personnel soignant.
Tu sais, tu passes 3 ans à faire de formation, tu payes cher, tu sors, tu chômes. Ça, c'est pas bon. Alors que j'ai entendu là-bas, un retraité, on appelle son fils pour lui dire que viens, tu vas remplacer ton père, alors qu'il y a quelqu'un qui a fait son formation 3 ans, avec ses diplômes, on ne l'embauche pas. Ça, c'est de l'injustice. C'est ça que je veux qu'il fasse. Il doit réduire le taux de chômage en prenant les gens diplômés, un homme qualifié à la place qu'il faut.
Le plan national de développement sanitaire 2009-2018 a pour ambition de résorber les problèmes de soins et de santé dans le pays. Malgré les efforts, la réalité aujourd'hui, c'est que les attentes des populations restent toujours élevées. À Dakar, Sedina Abagay pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, plus d'un million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. Le Bureau onusien de coordination des affaires humanitaires, OCHA, a lancé un plan d'urgence pour mobiliser 100 millions de dollars. Les détails avec Bagassi Koura.
1 200 000 personnes ont urgemment besoin d'assistance au Burkina Faso. Le pays fait face à des urgences sans précédent du fait de la persistance de l'insécurité dans les régions du centre-nord, de l'est et du nord, selon un communiqué conjoint d'OCHA et du gouvernement burkinabé. Nous devons agir maintenant et travailler ensemble pour empêcher cette crise de devenir incontrôlable, a déclaré la coordonnatrice résidente des Nations Unies, Metsi Maketa. Le gouvernement et l'agence humanitaire de l'ONU ont lancé un plan d'urgence pour mobiliser 100 millions de dollars pour fournir de la nourriture, de l'eau, des abris, des soins de santé, de la protection à 900 000 personnes les plus touchées par la crise. La ministre burkinabé chargée de l'action humanitaire, Hélène-Marie Laurence-Ilboudo, a lancé un appel pressant à tous les partenaires. L'insécurité croissante a déjà forcé 83 000 personnes à fuir leur maison à la suite de violentes attaques et des affrontements intercommunautaires.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, les enseignants ont repris jeudi leur mouvement de grève pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire à un mois d'élections législatives qui sont censées sortir le pays de la crise. Les précisions d'Ekia Badou.
À Bissau, la capitale, les écoles publiques du primaire et du secondaire ont été fermées. Par précaution, certaines écoles privées ont demandé à leurs élèves de rester à la maison. Après 4 mois de grève, 3 syndicats d'enseignants avaient interrompu leur mouvement le 9 janvier après avoir obtenu des garanties du gouvernement que les arriérés de salaire seraient payés et une nouvelle grille salariale. Ces promesses n'ont pas été tenues et les syndicats ont déposé un préavis de grève de 27 jours. Ce débrayage intervient peu avant le début, demain samedi, de la campagne pour les législatives du 10 mars censée sortir le pays de plusieurs années de crise. 20 des 21 partis politiques ont signé hier un code de conduite dans lequel ils s'engagent à recourir aux voies légales pour contester les résultats et à éviter les attaques verbales ou l'utilisation de la force pendant la campagne. Pour Fodé Karamba Sanya, un membre de la société civile, ce pacte ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des engagements.
La lutte contre les djihadistes au Cameroun, près de 200 anciens membres camerounais du groupe djihadiste nigérien Boko Haram sont volontairement rentrés dans leur pays depuis le Nigeria. Le point avec John Lindon.
Originaire du département du Mayo-Sava dans l'extrême nord du Cameroun, 187 ex-djihadistes sont rentrés à pied du Nigeria voisin et se sont rendus aux autorités de Kolofata et Mémé. Ils ont été amenés à la base de la force mixte multinationale. La semaine dernière, environ 200 d'entre eux, dont des enfants de moins de 15 ans, avaient déjà été amenés au camp de Mora. 1 millier d'anciens djihadistes sont rentrés au Cameroun depuis un appel en ce sens, lancé il y a 1 an par le président Paul Biya. Ils ne courent aucun danger et tout sera mis en œuvre pour les resocialiser, a déclaré Midi Yawa Bakari, gouverneur de la région. Un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion a été mis en place pour leur permettre de reprendre une vie normale. Après les enquêtes pour s'assurer qu'ils ont définitivement rompu les liens avec Boko Haram, ces ex-djihadistes seront transférés dans la localité de Mouré, dans l'extrême nord, où un terrain de 13 hectares leur a été alloué.
Actualité américaine pour terminer. Le Sénat des États-Unis a confirmé jeudi la nomination de William Barr au poste d'Attorney General, le ministre fédéral de la Justice. 54 sénateurs ont voté pour, 45 contre. Abdourahmane Dia.
William Barr va superviser l'enquête que mène le procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion entre l'équipe de Donald Trump et la Russie avant la présidentielle de 2016. Lors de ses auditions au Sénat, M. Barr s'est engagé à protéger l'enquête du procureur Mueller. Sous mon mandat, Robert Mueller sera autorisé à mener son travail à terme. En tant que ministre de la Justice, mon allégeance ira à l'état de droit, à la Constitution et au peuple américain, a-t-il écrit dans une déclaration préalable à la procédure de confirmation de sa nomination. Mais la sénatrice démocrate Dianne Feinstein a dit craindre que William Barr cherche à tirer des conclusions avant de connaître les faits. Il avait rédigé l'an dernier un document de 19 pages dans lequel il critiquait la manière dont Mueller menait ses investigations. De nombreux sénateurs démocrates redoutent aussi que le nouveau patron de la justice américaine refuse de rendre publiques les conclusions de l'enquête. William Barr, nommé par le président Trump, a déjà assumé ses mêmes fonctions entre 1991 et 1993 sous la présidence de George Bush père.
Et toujours dans l'actualité américaine, le président Donald Trump va promulguer aujourd'hui la loi sur la sécurité aux frontières élaborée par le Congrès des États-Unis. Le chef de l'exécutif compte décréter simultanément l'état d'urgence national pour débloquer des financements supplémentaires pour construire son mur à la frontière avec le Mexique. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Oh oh.